Chapitre 28e. Une lettre qui me fut apportée dès le matin me remit un peu de gaieté. Lisez ce qu'on m'écrivait. Jamais, monsieur le chevalier, vous ne laissez à une pauvre femme le temps de se reconnaître. Je devrais être accoutumé à vos manières, mais j'y suis toujours prise, parce que je n'ai pas de mémoire, et parce que je perds la tête. Vous, cependant, vous auriez dû vous souvenir de nos anciennes conditions, qui était que je commencerai toujours par ma commission. Hier au soir, vous m'en avez fait oublier une fort importante. Certaines grandes dames, dont je n'étais que l'indigne servante, quand vous passiez pour son fidèle serviteur, fâchées de ce que je n'ai pas pu vous parler hier, comme elles m'en avaient chargé, me prient de vous écrire aujourd'hui qu'elles désirent avoir avec vous un court entretien. Elle sera chez moi dans 2 heures. Venez plus tôt, si vous voulez, qu'en l'attendant, nous déjeunions tête à tête. J'en ai, moi, la plus grande envie, car vous avez de si bonnes façons qu'on y peut tenir. Tout à vous, de mon désir. » Relisons certains passages de sa lettre. « Une grande dame dont je n'étais que l'indigne servante, etc. »« Madame de B, très certainement. »« Madame de B veut me voir dans une maison tierce. »« Madame de B veut me parler en particulier. »« Dieu, si l'amour me la rendait aussi tendre. »« Jasmin, monsieur. » Attend-on la réponse ? Oui, monsieur. Dites que j'y cours. Ah ça, mais il n'y sera que dans 2 heures. Qu'importe, je trouverai Justine, je causerai avec cette petite. J'ai du chagrin, cela me dissipera. Oui, Jasmin, oui, dis que je pars sur les pas du commissionnaire. En effet, j'étais au Palais-Royal presque aussitôt que lui. Ce qui me frappa chez Madame de Mondésir, ce fut moins la beauté de son logement, l'élégance de ses meubles, l'air effronté de son petit laquais et de sa laide chambrière, que l'accueil vraiment protecteur dont Justine m'honora. Presque couchée sur une ottomane, elle jouait avec un angora quand on lui annonça ma visite.
« Ah ah !»
dit-elle nonchalamment. « Eh bien, qu'il entre !» Et sans se déranger, sans abandonner les pattes du joli chat, « C'est vous, chevalier ? Il est de bien bonne heure. Mais pourtant, vous ne m'accommoderez pas. J'ai mal dormi, je ne suis pas du tout fâché d'avoir compagnie. » J'ai été d'abord resté muet de surprise, mais enfin je ne pus retenir un grand éclat de rire. « Dis-moi, belle enfant, depuis quand fais-tu la princesse ?»« Il est bon, me répondit-elle, de garder avec ces gens-là et devant eux son quant à soi. Ainsi ne te fâche pas du ton que... Comment, Justine, me tutoie ? Pourquoi non ? Puisque tu plais à Madame de Mondésir et puisque tu l'aimes... « Fort bien, ma petite. En vérité, voilà ce que je me suis dit à moi-même. Il n'y a pas une demi-heure en lisant ta familière épître. Cependant, permets une observation. Ne m'aimais-tu pas autrefois ?»« Autrefois ? Si, donc. Je t'aimais, oui, autant que peut aimer une malheureuse femme de chambre. Et maintenant ?»« Maintenant, je n'ai pas moins de tendresse. Et cette tendresse est plus honnête, plus distinguée, car enfin, je suis établi, j'ai un état. » « En effet, madame, je vous en fais mon compliment. Tout ici respire l'opulence. Conte-moi donc comment tu as fait cette brillante fortune. »«
Volontiers, mais j'ai auparavant beaucoup de choses plus intéressantes à te dire. »
Monsieur de Valbrun, bientôt dégoûté de sa petite maison, mais chaque jour plus attaché à sa maîtresse, avait mis Justine dans ses meubles. Il lui donnait 25 louis par mois, sans les loyers qu'il payait, sans les cadeaux fréquents, sans quelques menues dépenses de maison. Et voilà ce que Madame de Mondésir appelait avoir un état. Dès que je sus qu'elle était, dans toute la forme du terme, une fille entretenue, je la priai très sérieusement de me considérer comme une passade, et je tirai de ma poche quelques louis que je la forçai d'accepter. Puis j'osai lui demander à déjeuner. Il nous fut apporté par l'effronté laquais. Le drôle était d'une jolie figure, et je m'aperçus d'abord que sa maîtresse n'avait pas pour lui le ton revêche, les airs impertinents dont elle accablait la pauvre chambrière. Madame de Mondésir, je vous observe, et vous n'y faites pas assez d'attention, et vous négligez de garder avec cet heureux serviteur le fameux quant à soi dont vous m'avez parlé. Madame de Mondésir, ou je me trompe fort, ou dans vos grandeurs présentes, vous conservez les premiers goûts si désintéressés de votre condition première. Justine, ce petit monsieur-là me rappelle la jeunesse. Ah, vicomte, cher vicomte, prenez garde à vous.
ceci vous regarde et désormais vous regardera seul. Car à compter de ce moment, je promets bien qu'il n'y aura plus rien de commun entre votre maîtresse et moi. Mais ne pensons plus à Madame de Mondésir. Il me semble que j'entends Madame de B. » Madame de B. n'arriva pas du côté par où j'étais entré. Je la vis tout à coup paraître au fond de la dernière chambre occupée par Madame de Mondésir. Je courus me jeter à ses genoux que j'embrassai. La marquise se pencha sur moi et me donna un baiser. Puis, voyant que je me relevais promptement pour le lui rendre, elle recula de deux pas et ne me présenta que sa main. Encore, ce fut d'un air plus poli qu'empressé, de cet air qui, loin de solliciter une caresse, semble commander un hommage. Mais moi charmé de tenir encore une fois dans les miennes cette main depuis si longtemps chérie, je sentis, en lui donnant plusieurs baisers bien vifs, que, toujours digne de l'amour, elle était trop jolie pour le respect et pour l'amitié. Madame de Mondésir vint faire sa révérence à Madame de B. Celle-ci la reçut comme autrefois elle recevait Justine. « Petite, lui dit-elle, je suis contente du zèle et de l'intelligence que vous avez mis dans la prompte exécution de mes ordres. Vous me connaissez, je ne serai point ingrate. Allez, fermez cette porte en sortant, et que personne ne puisse pénétrer jusqu'ici. » Dès que Justine eut obéi, je tâchai d'exprimer à Madame B. tout l'excès de ma reconnaissance et de ma joie. « Chevalier, répondit la marquise, en retirant sa main qu'apparemment je serrais trop, vous ne m'entendrez point. Jouant ici la délicatesse, affectez de nier ce que mille gens ne tarderaient pas à savoir et viendraient vous certifier. C'est par moi que les portes de la Bastille se sont ouvertes pour vous. Peut-être la petite de Mondésir vous a déjà dit à quel point mes assiduités à la cour y ont accru le crédit dont je jouissais. Et je vous assure, mon ami, que la considération de vos malheurs qu'il fallait finir ne fut pas la moindre de celles qui m'animèrent et me soutinrent dans la poursuite de mes projets ambitieux. Je suis maintenant au plus haut degré de faveur que puisse atteindre la fortune d'un courtisan. Et si votre liberté, presque tous les jours inutilement sollicitée, mais enfin obtenue malgré mille obstacles et mille ennemis, n'a pas, aussitôt que je l'aurais voulu, signalé toute l'étendue de mon pouvoir, du moins, je puis me glorifier de ce qu'elle en est la preuve la moins équivoque. Et je ne crains pas de vous avouer que je vois en elle mon plus doux succès. Ne croyez pas cependant que votre meilleur ami compte borner là ses bons offices. Je sais que, pour vous, la liberté n'est pas le premier des biens. Je sais que Faublas, quoique sans cesse caressé de plusieurs amantes, ne peut vivre heureux s'il languit séparé de celle qu'il a toujours préférée. Je prétends la lui rendre, je prétends découvrir la retraite de Mademoiselle du Portail, fût-elle au bout de l'univers. « Oh, ma bienfaitrice » m'écriai-je. « Oh, ma généreuse amie !» La marquise retira sa main que je voulais reprendre et continua. « Avant tout, il est bon que je vous éclaire sur Madame de Fontrose, et je ne serais pas fâché que vous sachiez si je connais Madame de Lignol. La petite comtesse, vaine de ses appas, qu'elle croit incomparable, de son esprit, qu'on lui dit être original, de sa naissance, dont elle ne sait pas qu'on suspecte la légitimité, fière aussi des richesses qu'elle attend et du rang qu'elle espère, forte du hasard qui lui a donné la plus faible des tantes et le plus imbécile des maris, la petite comtesse imagine qu'on ne lui doit qu'hommage, adoration et respect. Étourdie, impérieuse, obstinée, fantasque et jalouse, elle a tous les défauts d'un enfant gâté. Toujours elle se montrera moins sensible au plaisir de plaire qu'au bonheur de commander. On la trouvera la plus exigeante des maîtresses, comme on la voit la plus impertinente des femmes. Elle fera bientôt de son amant son premier valet, comme elle a déjà fait de son mari son dernier esclave. Quant à la baronne, sa réputation est faite. Personne ne l'estime, parce que tout le monde la connaît. Le scandale de ses débuts a fait mourir de chagrin M. de Fontrose, un très galant homme, seulement coupable d'avoir voulu, dans un rang élevé, donner à sa trop noble femme le goût de bourgeoise vertu. À l'époque de son mari, Madame de Fontrose, entièrement libre, s'est hâtée de justifier les brillantes espérances qu'elle avait données. En moins de 10 ans, le nombre de ses conquêtes s'est tellement multiplié que, craignant enfin d'en oublier quelqu'une, elle vient tout récemment de prendre le très sage parti d'en dresser elle-même l'honorable liste. Dans cet interminable vocabulaire, le nom de monsieur votre père se trouve peut-être le millième et sera probablement suivi de 1000 autres noms, sans compter le vôtre. Jamais le nouvel arrivant ne fait chez cette messaline aucun tort au premier venu. Elle en gardera 30 à la fois, si 30 le veulent bien. Au reste, ne croyez pas que ces menus détails puissent seuls remplir une tête aussi vaste que celle de la baronne. Il faut encore à cet intrigant génie des occupations au dehors. Désolée des moments de loisir que ses amours lui laissent, elle ne s'en console qu'en favorisant les amours d'autrui. Tels sont les ennemis que je me propose de combattre avec vous. Cependant, je crois devoir pendant quelque temps leur laisser le plaisir de votre défaite. Grossissez incessamment l'immense liste des heureux que Madame de Fonrose a fait. Cette femme, trop occupée, ne pourra retenir plus d'un jour un jeune homme que je connais sensible et que je crois délicat. Quant à Madame de Lignol, je permets qu'elle vous arrête quelques semaines. Puisqu'absolument il vous faut un objet de distraction, je préfère à tout autre une enfant capricieuse et légère qui ne vous inspirera qu'une fantaisie passagère comme la sienne. Soyez donc, en vos jours de désœuvrement, la poupée dont elle raffole, mais songez qu'il faudra, dès que je pourrai vous ramener Sophie, rompre sans retour avec la comtesse. J'en pris l'engagement avec la marquise. Je la remerciai vivement de l'intérêt qu'elle me témoignait. Je lui promis de n'aimer que ma femme, aussitôt que ma femme me serait rendue. Cependant, je n'avais pas entendu sans chagrin Madame de B réclamer ma fidélité pour Sophie, et je me hâte, afin que personne ne soit tenté d'improviser le vif déplaisir qu'involontairement je ressentais, je me hâte d'avertir tout le monde que la marquise était alors plus que jamais brillante des agréments de sa jeunesse et de l'éclat de sa beauté. Je trouvais sa peau d'une blancheur plus éblouissante, les roses de son teint me paraissaient avoir plus de fraîcheur. Ma mémoire me retraçait d'autres appâts que mon imagination me montrait encore perfectionnés. Mais aussi, je me sentais forcé de reconnaître quelque chose de plus décent, de plus assuré dans son maintien toujours enchanteur et dans toute sa personne, comme autrefois remplie de grâce, je ne sais quel air de dignité qui n'appartient point aux amours. J'étais désespéré. 20 fois je voulais lui rappeler le souvenir qui m'agitait, le douloureux souvenir de mon bonheur passé. 20 fois elle m'imposa silence par un geste et par un regard qui semblait dire « Plaignez mon malheur et respectez votre ami. » Il fallut me résoudre à la respecter. Il fallut me résoudre à l'écouter quelque temps encore sans l'interrompre. Elle me détailla la foule des moyens qui maintenant étaient en son pouvoir et dont elle comptait user pour chercher Madame de Faublas. Et quand elle me vit bien persuadée que personne au monde ne pouvait retrouver Sophie, si Madame de B ne le pouvait pas, elle me parla de Justine. Cette petite, me dit-elle, m'a promis de n'apporter aucun obstacle au projet que j'ai formé de vous rendre sage, mais je la soupçonne peu capable de garder constamment une résolution désespérée. Ainsi, je vous prie de vouloir bien ne pas mettre son courage à de rudes épreuves. Vous ne pouvez honnêtement, ajouta-t-elle d'un ton plus sérieux, lui continuer la longue affection que vous avez eue pour elle. Une intrigue de cette nature ne vous convient sous aucun rapport. Je ne lui dissimulais point que ce matin et tout à l'heure, Madame de Mondésir violait avec moi sa téméraire promesse, et même, je lui contais naïvement quelle douce méprise, pour me donner la veille un des plus fortunés instants de ma vie, avait dans mes bras embelli Justine de tous les attraits de Madame de B. Je vis la marquise plusieurs fois rougir, et plusieurs fois je l'entendis soupirer de mon erreur, sans doute inexcusable. Enhardi par son trouble, j'osais risquer, avec une légère caresse, une insidieuse question. « Et vous, ma chère maman, ne songez-vous donc jamais à moi, jamais un tendre souvenir ?» Madame de B, déjà remise, m'interrompit. « Devez-vous demander si je songe à vous ? Tout ce que je vous dis ne prouve-t-il pas que votre ami sans cesse occupé de vos intérêts les plus chers ? Il est donc vrai que vous êtes mon ami ? Hélas, vous n'êtes plus que mon ami. Faublas, vous devriez m'en féliciter. Ma chère maman, je ne puis que m'en plaindre. Parlons d'autre chose, mon ami. Que ne suis-je encore Mademoiselle du Portail ? Chevalier, changeons de conversation. Que n'allons-nous encore ensemble à Saint-Cloud ? Bon Dieu, déjà midi. s'écria-t-elle en regardant sa montre. « Florville, je veux pourtant, avant de vous quitter, vous donner une commission. » Elle tira d'un portefeuille un papier qu'elle me remit. « J'ai moi-même sollicité cette lettre du ministre, qui rappelle en France mon plus mortel ennemi. Faites-moi le plaisir de l'adresser au comte de Rosenberg, à Bruxelles, où il est maintenant. Annoncez-lui qu'il peut, sous son nom, reparaître dans la capitale et même à la cour, qu'il ne croit pas cependant que je renonce à ma vengeance, mais qu'il sache que je la veux digne de moi. Punir avec noblesse un homme indigne de sa naissance, qui ne craignit pas de m'insulter bassement, c'est punir deux fois. Adieu, mon ami. Adieu, madame. Serai-je longtemps privé du bonheur de vous revoir? Non, Florville. Je compte revenir ici quelquefois. Dites souvent. Souvent, si je puis. Et bientôt? Le plus tôt possible. Dans quelques jours? Vous serez averti par Justine. Adieu, mon ami.